Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir à mon micro Amy Alexandre. Amy, vous la connaissez peut-être plus sous le pseudo Amy Zaparsa sur Instagram, puisqu'elle est aujourd'hui suivie par près de 22 200 personnes. Quand elle était petite, elle voulait être conservatrice de musée. Vous découvrirez à travers cet épisode tout son parcours, qui l'a menée aujourd'hui à être créatrice de contenu, ses sujets de prédilection, le tourisme, le no-tourisme, la culture, la découverte de la France de manière générale, des bonnes adresses à Paris, des sorties en Touraine aussi. Elle nous parlera des dessous de son métier de créatrice de contenu, comment ça se passe sur Instagram, on en saura un petit peu plus. On abordera aussi son projet de bouquin et tous les projets annexes qu'elle mène aussi en parallèle. Vous verrez, c'est une fille hyper positive, ça transparaît dans l'épisode. J'espère que vous recevrez aussi tout ça comme une belle inspiration. Je n'en dis pas plus comme d'habitude et je vous laisse avec cet épisode avec Amy Alexandre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amy.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Je suis ravie de te recevoir. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais d'abord te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as.
Oui, bien sûr. Je m'appelle Amy, j'ai 27 ans. Je suis officiellement influenceuse à plein temps ou créatrice de contenu, selon le terme que l'on préfère.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
On en parlera. voilà, c'est mon activité à plein temps depuis octobre 2022.
Okay.
Avant, je travaillais dans la culture.
Et bien justement, je voudrais... alors, tu nous le dis, tu es aujourd'hui influenceuse, on en parlera évidemment en détail, tu nous expliqueras un petit peu tout ça. Je voudrais revenir, comme j'ai l'habitude de le faire, sur ton parcours. Alors, tu es encore jeune, mais malgré tout, les études sont derrière finalement, parce que tu es rentrée dans le monde professionnel il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des études que tu as faites? Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais petite?
J'ai toujours voulu être, je crois, conservatrice de musée.
Oui.
Ou du moins, ça a été... Enfin, je pense que dans mes petites fiches que je remplissais au collège, j'avais tendance à mettre ça.
D'accord.
Les musées, j'aimais beaucoup. Donc, je suis partie en histoire de l'art pour commencer une licence en 3 ans. J'ai fait la dernière année de cette licence à Venise, en Erasmus. C'était
okay,
trop bien.
Super.
Comme je visais le concours de conservateur du patrimoine, je savais qu'il fallait parler 3 langues.
D'accord.
Donc, j'avais, en fonction, choisi un Erasmus en Italie.
Ok.
Suite à ça, j'ai fait un premier master à Lille, c'était patrimoine et musée, gestion des sites du patrimoine.
Ouais, c'était la continuité.
C'est ça, la continuité. Et j'ai fait un stage à ce moment-là, en master 2, pendant quasiment toute la période des cours. J'ai réussi à négocier un truc improbable, parce que c'était à la Villa Médicis à Rome. Donc je suis retournée
super.
En Italie, c'était incroyable.
D'accord.
Et puis, comme j'ai eu l'impression de ne pas trop avoir fait de master 2 et que j'adorais mes études, j'ai refait un master à Paris, cette fois-ci, à la Sorbonne, à Paris 1, conservation, restauration des biens culturels.
Ok, bon bah finalement, effectivement, comme tu nous le dis, toi petite, tu savais, tu as fait les études, entre guillemets, qu'il fallait pour arriver jusqu'à ce métier-là. Est-ce que rapidement, tu peux me dire, conservateur du musée, ça consiste en quoi en fait?
Le conservateur du musée est responsable d'une collection dans un musée. Par exemple, au Louvre, il va y avoir un conservateur. Enfin, il y en a beaucoup au Louvre.
Hein, oui, mais, du coup.
voilà, un pour les antiquités, un pour le Moyen-Âge,
ouais,
un pour la Renaissance. Donc, chacun a sa spécialité, gère les collections, organise les expositions. C'est aussi beaucoup d'administratif, on gère des équipes.
Voilà. Ouais, ok, je comprends. Donc, tu as fait des super stages jusqu'en Italie. Tu m'as dit comment, alors sans rentrer peut-être dans le détail de toute l'histoire, mais comment tu arrivais à décrocher ces stages-là?
Ben, c'était un peu improbable. À chaque fois, je postulais en y croyant à fond, D'accord. Vraiment, je mettais toute la famille sur le dossier.
Des offres que tu voyais sur Internet tout bêtement, comme n'importe qui.
De la Villa Médicis, je l'ai vue, je crois, sur Facebook. Il y a des offres, des groupes d'offres de stage pour les étudiants et tout. Du coup, j'ai postulé et puis il fallait parler italien, en fait. C'était ça, le truc.
Et oui, j'ai pas pensé à ça, mais exact.
C'est ça. En fait, la langue de travail là-bas, je crois que c'est l'italien. Enfin, je sais plus trop comment on s'organisait. Mais en gros, mon chef était français, mais tous mes collègues étaient italiennes.
Bah oui, d'accord.
Donc, il fallait savoir parler italien.
Et donc toi, tu savais déjà parler italien ?
Grâce à l'Erasmus d'avant.
Grâce à l'Erasmus
j'avais fait l'année d'avant.
Génial. Voilà. Bien. Ok. Donc, des super stages, des études, j'imagine, qui te passionnent, du coup, puisque c'est dans ton domaine. L'aventure Erasmus, ça t'a plu aussi, le fait de partir
C'était génial et du coup, je conseille toujours de partir un an et pas six mois parce qu'on a toujours le choix. Donc, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, partez un an.
Voilà, le conseil d'Emmy. Super. Tu es originaire de Tours, toi, ou pas du tout
Non, mais pas loin, de Bourges.
D'accord.
On reste dans le centre-Val de Loire.
Ouais, je connais bien Bourges aussi. Parfait. Du coup, à la suite de tes études, fin de ton deuxième master, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu rentres dans la vie active directement?
Oui, j'avais envie. Là, j'en pouvais plus. Par contre, le master 2, c'était le master de trop, enfin le deuxième master, parce que c'était un master hyper recherche, alors que j'avais fait un truc pro avant, donc j'en pouvais plus. J'avais hâte de travailler et j'ai trouvé un premier CDD à la Sainte-Chapelle de Paris, sur l'île de la Cité.
Okay.
C'était chouette, mais c'était à la librairie, donc il n'y avait pas grand-chose au niveau conservation du patrimoine, mais au moins, j'étais dans un beau lieu, etc. Bon. Mais je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus, donc j'ai postulé pendant des mois dans des postes, dans des musées, dans des monuments à Paris et rien ne fonctionnait. Mais ça veut dire aucun retour, aucun entretien, zéro. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, faudrait pas que ça dure trop longtemps cette affaire. On nous avait prévenu dans le milieu de la culture que ça serait compliqué.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Tu postulais à des offres ou tu faisais des candidatures spontanées
tout. Je faisais tout, j'avais un carnet avec toutes les institutions possibles et je m'étais envoyée. Et ça marchait pas. Et donc après, finalement, j'ai commencé à postuler hors de Paris et c'est là que ça a fonctionné.
Ah ouais, ok. Donc hors de Paris, où ça tout à l'heure, je te demandais si t'étais de Tours, parce que alors, bon, oui, moi je suis de Tours, mais je ne reçois pas que des invités qui sont tourangelles, mais en l'occurrence, maintenant tu es à Tours, donc t'as quitté Paris pour Tours, c'est ça?
Alors en fait, j'avais fait mes deux premières années de licence d'histoire de l'art à Tours.
D'accord.
Et donc je suis revenue à Tours en février 2020, quand j'ai décroché mon premier travail, donc j'avais recherché à Paris, ça fonctionnait pas, j'ai postulé dans un château à côté de Tours, ça a fonctionné.
Ça a fonctionné. Donc tu décroches, c'était un CDI, CDD
Au début, c'était un CDD. Je fais la parenthèse pour dire que j'avais une amie qui travaillait là avant.
D'accord.
Et que du coup, voilà, dans la culture, c'est souvent comme ça que ça se passe. Si on connaît quelqu'un dedans, on arrive à rentrer. On entend les offres de stage, peut-être les offres de travail avant qu'elles sortent et tout.
Ouais.
Voilà, c'est souvent comme ça.
Bah, ça aide parfois. Et c'est aussi ça l'avantage. Ok. Donc, tu décroches ce job. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, et le titre, c'était chargé de développement culturel et de communication au château de Lillette, à côté d'Azel Rideau.
Pour donc ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, allez visiter, c'est très joli.
Un très beau château privé qui ouvre du 1er mai au 30 septembre et qui a accueilli les sculpteurs Camille Claudel et Rodin. Il y a un magnifique jardin, c'est superbe. Et donc, j'étais en CDD là-bas au début, puis j'ai signé un an après, je crois, le CDI. Et au niveau des missions... j'étais la seule employée à l'année sur ces missions-là. Donc, en fait, j'étais avec mon chef, j'étais avec son épouse. Et puis, on faisait tout ce qu'il y avait à faire pour faire tourner le château. Je faisais les recrutements des stagiaires, notamment, qui venaient l'été. Je les formais à la visite guidée. Je leur montrais le monument. Et puis, j'étais toujours sur place dans mon bureau. Donc, en fait, c'était génial parce qu'en fait, les missions changeaient tout le temps. Il n'y avait jamais une journée qui se ressemblait.
Ça, c'est bien,
Il se passait toujours des trucs. Donc, c'était super et le cadre était splendide.
Bah, ça, j'imagine, pour avoir visité. Ça a duré combien de temps, ce job-là?
Et du coup, de février 2020 à octobre 2022. Donc, j'ai fait, j'étais en CDI, mais j'ai fait 3 saisons. Parce que comme c'est ouvert seulement en haute saison, voilà.
Ok. Donc super. Ensuite, alors tu me dis que ça se termine en octobre 2022, on va y venir. Pourquoi ? Puisque tout à l'heure, tu nous le disais quand tu te présentais, tu es, alors on reparlera un petit peu plus tard du terme qu'il faut utiliser. Mmh. En tout cas, moi, je vais dire influenceuse pour l'instant. Donc tu es influenceuse puisque tu as un compte Instagram, je suis allée vérifier juste avant d'enregistrer, qui est suivi par 22 200 personnes.
Oui,
c'est que des deux. Je ne sais pas ce que ça signifie, ça, mais ça a peut-être une signification particulière. Et un blog aussi, notamment, on en reparlera tout à l'heure. Donc je voudrais revenir un petit peu sur ce compte Instagram parce que aujourd'hui, effectivement, c'est très à la mode, les influenceurs, mais là, c'est un peu différent parce que, alors un peu différent, oui et non, mais en tout cas, tu es sur un créneau qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui n'est pas celui qui est le plus représenté. Comment t'es venue l'idée de lancer ce compte Instagram? Et juste avant, est-ce que tu peux nous donner son nom, tout simplement, qu'on puisse te retrouver?
Oui, du coup, le compte Instagram, c'est Emise à part ça. Donc, Emi, E2MY, c'est mon prénom. Oui. Z-A-P-A-R-T-C-A.
Je le mettrai dans les notes de l'épisode pour que les gens retrouvent.
Et du coup, j'ai créé ce compte Instagram il y a peut-être un peu plus de 5 ans, à l'époque où finalement... il existait sur YouTube des grandes blogueuses que tout le monde suivait, etc. Ouais. Mais l'influence, comme on la connaît aujourd'hui, je crois que ça n'existait pas trop. Enfin, moi, je sais que je suivais des gens, mais je ne savais pas qu'ils étaient payés pour ça.
Oui, bah pour moi, je suis vieille de la vieille. Moi, j'avais un blog en 2012, que j'ai ouvert en 2012. Et moi, pour le coup, c'était que les blogs. C'est-à-dire, c'était les blogueuses, les pures blogueuses, où on écrivait des articles, on avait un mini-site internet avec les événements qu'on connaît. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus tant le blog, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et même quand toi, tu as commencé, c'était pas tel que c'est aujourd'hui. Ça évolue hyper, hyper vite. Donc oui, on n'était pas dans le monde de l'influence comme on l'est aujourd'hui. C'était pas démocratisé, le fait que les gens gagnent leur vie avec ça, etc.
Oui, totalement. Moi, je sais que j'étais très YouTube et du coup aussi blog, comme les filles avaient des blogs. Mais quand je me suis inscrite sur Instagram, je ne me suis pas dit un jour, je vivrai de ce compte Instagram. Surtout que, comme on l'a discuté avant, j'étais à fond dans mes études, à fond dans un tout autre projet. Donc, je ne l'ai jamais fait pour cette raison-là. Mais c'est sûr que finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise idée.
Donc, tu décides d'ouvrir. Est-ce que d'abord, c'était un compte perso que tu as ouvert un peu comme tout le monde peut le faire et qui, au fur et à mesure, s'est développé? Ou est-ce que tu t'es dit quand même, c'est pas mon compte perso, je vais pas partager forcément ma vie ou autre, mais je vais plus être orientée culture comme tu l'es aujourd'hui?
Alors, tout de suite, j'ai voulu faire la distinction. J'avais mon compte perso avec tous mes amis et tout, et j'ai voulu créer un autre compte dont j'ai décidé assez rapidement de ne parler à personne. Okay. Parce qu'à l'époque, j'avais surtout des amis garçons.
D'accord.
Et du coup, alors évidemment, je savais que les sujets que j'allais traiter n'allaient pas du tout les intéresser, que le côté prendre un peu la parole comme ça allait un peu faire bizarre. Oui. Donc, je voulais pas avoir de questions, je voulais juste faire mon truc dans mon coin.
D'accord.
Et du coup, je me suis lancée. Et j'ai créé donc Emise à part ça s'est toujours appelé comme ça.
D'ailleurs, je vais avoir l'occasion de te poser la question, pourquoi?
Alors, parce que là, ça, c'est le jeu de mots que personne ne comprend, mais je laisse quand même maintenant que c'est fait. Mais du coup, c'est Mise à part ça, et Mise à part ça.
Ah,
voilà, mise à quand on dit dans la vie.
D'accord.
Là, Mise à part ça. Non, non.
Ouais, okay.
Donc, bon, pas très compréhensible, surtout avec l'écriture. Les gens pensent que c'est mon nom de famille, que je m'appelle Emi. Zapartka. Surtout,
oui, voilà. Oui, et puis oui, c'est pour ça que en fait c'est la petite astuce, je te l'ai fait le prononcer d'abord avant moi.
J'ai su quand tu m'as demandé.
Parce qu'effectivement, j'aurais pas forcément squeezé le thé.
Non, mais je garde aussi parce que justement, ça fait un peu double identité quoi. Je reçois des courriers au nom de Madame Zapartka.
C'est vrai.
Et puis finalement, j'aime bien en fait, je garde.
Ok, donc du coup, ce compte Insta un peu en secret finalement de ta famille, tes proches, tes amis, etc. Le truc, c'est qu'il se développe quand même.
Et oui, il se développe parce que à l'époque, déjà, l'algorithme était rangé par ordre chronologique. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvrait Insta et on voyait juste les publications qui venaient d'être postées. Donc, ça, c'était génial. Parce qu'étant donné que tout le monde y passe du temps, on voit toujours ces trucs-là. Ce qui n'est plus le cas
maintenant.
On ouvre et on voit des publications qui datent d'il y a 5 jours. Enfin,
c'est ça.
C'est plus le même environnement. Et à l'époque, je publiais des photos comme c'était la mode, quoi, avec un fond hyper blanc, souvent très saturé. Mais c'était le feed, quoi. C'était l'ère du feed, vraiment.
Mais par contre, quels étaient tes sujets de prédilection? Est-ce que c'était les mêmes qu'aujourd'hui?
Pas du tout. Du coup, je me calquais un peu sur les contenus que je regardais. Moi, j'ai toujours aimé, par contre, tout ce qui est skincare. Avant, j'aimais bien le maquillage. Maintenant, je suis plus skincare.
Ouais.
Mais du coup, je partageais autour de ça des petits produits que j'achetais, des petits habits et tout.
Plus lifestyle.
Voilà, truc que maintenant ne m'intéresse absolument plus. Mais il y a un moment, c'était les thèmes.
Ok. Et donc maintenant, de quoi tu parles? Comment tu te définirais ou tu te présenterais si on te demandait ce que tu fais avec ce compte Insta?
Eh bien, je dis toujours que mes thèmes, c'est le patrimoine, la gastronomie, le tourisme, même le no-tourisme, la découverte en fait, de ma région, la Touraine, des balades à Paris, où je vais souvent, vu que j'adorais habiter là-bas, et puis des balades en France, en général, pour découvrir l'art de vivre à la française.
D'accord, j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je disais que c'était un peu différent, parce qu'on a moins l'habitude de voir ce type de compte, mais qui plaît beaucoup. Comment a ton nombre d'abonnés, alors même si c'est pas que ça, les indicateurs qui font qu'un compte marche, puisqu'on peut avoir des abonnés qui ne sont pas forcément actifs, qui répondent pas, etc., mais en tout cas, tu as une belle communauté. Comment ça a évolué? Comment t'es passé de zéro, je crée mon compte, à aujourd'hui 22 200? Est-ce qu'il y a eu des paliers, des étapes? Je sais que tu m'avais dit que tu avais commencé ton compte Instagram à Paris.
Alors, en fait, il a techniquement décollé à Paris.
D'accord, ok.
C'est voilà, devenu quelque chose qui a vraiment intégré mon quotidien et où j'ai commencé à être très régulière, c'était à Paris.
D'accord, ok. Et donc ensuite, tu es venue à Tours. Donc, je répète ma question, des fois, je suis un peu longue. Comment t'es passée du palier de 0 à 22 200 abonnés?
Je me rappelle du palier à 8000 parce que c'est là que j'ai commencé à me dire waouh, on approche des 10K, le fameux K qui arrive et tout.
Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, je crois que au bout du 10 000 abonnés, tu avais des options quelconques qui se débloquaient.
Enfin,
c'était
ça.
Un peu le Graal, quoi.
Oui, il y avait maintenant les liens. On pouvait mettre un lien en story.
Voilà, donc, partager un lien, les gens cliquaient. Mmh. Ouais, voilà. Le swipe, le fameux swipe up, je le dis parce que tous les gens ne sont pas habitués des réseaux. Mais oui, le swipe up, c'est-à-dire que tu pouvais mettre un lien, les gens avec le doigt. Je sais pas comment dire.
Ouais, aller vers le
glisser,
haut.
Glisser, aller vers le haut, et ça les emmenait vers un site, ce qui était hyper révolutionnaire parce que, au-delà des influenceurs, toutes les marques qui avaient, je sais pas, des produits ou des services à vendre, bah, directement, ça pouvait renvoyer vers leur site. Donc, c'était un peu aussi le Graal pour les influenceurs.
Exactement.
Donc, palier de 8000.
Oui, c'est ça. Donc, là, j'étais à Paris déjà, mais alors, je me rappelle plus avant. Parce qu'en fait, je pense qu'avant, du coup, ça se faisait assez naturellement. Et puis, ben, je faisais pas trop attention.
Ouais.
Et c'est en fait une fois arrivée à Paris, quand il y a des agences, des marques, on commençait à m'envoyer des colis, commençait à m'inviter à des événements. Là, je me suis dit, ah ok, donc ce nombre d'abonnés qui grimpe, ça donne des trucs dans la vraie vie, ça se concrétise. Et du coup, oui, à partir de 8000, là, j'ai commencé à être beaucoup, beaucoup contactée. Et puis, je me suis dit, là, par contre, j'étais là, bon, bah, ok, go 10 000, go voir ce qu'on peut faire avec tout ça, quoi.
Ouais, ok. Bah ouais, parce que t'as l'occasion de rencontrer des gens, je pense de faire de belles rencontres, de voir des choses magnifiques, surtout dans le domaine dans lequel tu es. Alors, on parlait du terme influenceur. Aujourd'hui, comment tu te définis? Quel est le terme le plus approprié pour toi?
Moi, ça dépend de mon interlocuteur.
D'accord.
Quand je sais que la personne connaît un peu le monde de la communication, le monde des réseaux sociaux, et qu'elle n'a pas d'a priori par rapport à ça, je peux dire influenceuse. Mmh. Et là, je dis, bon, bah voilà, après, moi, mais j'ai une niche très particulière.
Oui.
J'ai une formation en histoire de l'art, donc j'ai tendance à... Alors, j'aborde pas forcément l'histoire de l'art, mais du moins le patrimoine, la découverte d'une région, le tourisme. Donc ça passe. Si je suis devant une agence, un futur client, là, je dis créatrice de contenu, parce que
D'accord.
c'est le terme dans le milieu qui est plus sérieux.
Ouais.
Et si je suis face à quelqu'un qui n'est pas du tout dans les réseaux sociaux, pour qui c'est une autre planète, là, là, ça devient plus compliqué. Je bégaye un peu. Je suis en mode, oui, je sais pas. vraiment, c'est difficile de se présenter.
Bah ouais, c'est des nouveaux métiers qui sont arrivés avec tous les réseaux sociaux, même si aujourd'hui, maintenant, c'est quand même bien, bien écrit et on sait un peu ce que c'est. C'est vrai que c'est quand même assez nouveau et parfois, pour certaines personnes, dire qu'on gagne sa vie via les réseaux sociaux, Instagram, ok, mais tu fais quoi?
Ça fait tout de suite bizarre. Quoi,
c'est exactement. Voilà. Et c'est pour ça que je te posais la question du terme que tu utilises, parce qu'influenceur, parfois, c'est associé à certains influenceurs issus, je vais peut-être m'attirer des ennuis, de télé-réalité, qui finalement n'ont pas grand-chose à raconter, mais qui sont hyper suivis et sont devenus influenceurs. Enfin, tu vois, il n'y a pas le sens que ça a, comme toi ou plein d'autres, qui communiquent sur des choses hyper intéressantes, et voilà, c'est pour ça. Ça, c'était ma parenthèse à moi et mon avis très subjectif.
Mais je suis assez d'accord.
Comment s'est passée la décision de quitter ton CDI? Parce que tu nous disais que tu travaillais au Château de Lillette, donc en CDI, des missions très chouettes. À côté, ton compte Instagram se développait, mais il y a quand même une part de risque. Je n'irais pas dire jusqu'à l'inconscience, mais tu vois, une part de risque dans le sens de se dire, pour certaines personnes, quitter un CDI qui permet une rémunération chaque mois, qui est quand même sécurisant, à Instagram, où finalement, on ne sait pas de quoi il fait demain et où tes revenus seront peut-être pas les mêmes chaque mois.
Oui, j'ai beaucoup préparé le terrain avant
D'accord.
de le faire. J'ai créé ma micro-entreprise avec Instagram en mai 2020.
D'accord, ah oui.
Pour qu'au début, ce soit un complément de revenu. En fait, je voulais prendre la température, voir concrètement ce que je pouvais gagner comme argent avec ça. Et donc au début, voilà, c'était un complément de revenu. Et en fait, dans mon emploi du temps, et c'est ça qui m'a menée à démissionner, c'est que Instagram commençait à prendre de plus en plus de place.
Ouais.
Et c'était vraiment, je faisais ma journée, et le soir, jusqu'à je sais pas quelle heure, je faisais des trucs avec Insta, des événements où je faisais mes contenus et tout. Le matin, je me levais 2 heures plus tôt pour pouvoir répondre à tous les commentaires, etc.
Ouais, d'accord.
Pendant ma pause midi, pareil, c'était tous mes appels pro, les trucs comme ça, c'était la pause midi. Donc en fait, des fois, je mangeais même
pas. T'avais pas de pause, ouais.
Donc c'était hyper... Enfin, ça commençait vraiment à devenir ingérable. Et surtout, je commençais à être de plus en plus contactée. Plus mon nombre d'abonnés augmentait et plus mes tarifs pouvaient être plus importants. Donc en fait, le complément de salaire commençait à se transformer en quelque chose d'un peu plus important aussi.
Oui.
Et là, je me suis dit, bon ben... Franchement, pourquoi pas tenter ? Et en fait, ce qui m'a vraiment décidée, c'est qu'en mai dernier, j'ai été contactée par une maison d'édition.
D'accord.
Qui m'a proposé d'écrire un guide sur la Touraine.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ah ok, c'est concret. Ouais. C'est trop bien parce que finalement, un livre, c'est pas comme un compte Insta. C'est tangible, on peut le prendre dans
exactement,
ses mains.
Ouais.
Il peut, c'est un gage de sérieux qui peut parfois manquer à Instagram. Et je me suis dit surtout, écrire un livre, vu la masse de travail que ça va être, impossible de combiner. Impossible
ouais.
de combiner Insta, le château et un livre. Donc je me suis dit, bah, c'est un signe, il faut que je me lance.
Ok, bon, bah, c'est chouette en tout cas. Donc tu quittes ton CDI pour te consacrer à temps plein à Instagram. Bah, du coup, comme on est en plein dans le sujet, j'aimerais que tu nous parles justement un petit peu de tes sources de rémunération, sans citer de chiffres forcément, parce que c'est pas ça le plus important et ça te regarde. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient pas forcément... à l'aise avec le sujet, qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de tout ça, quelles sont tes sources de rémunération via un compte Instagram en fait ?
Alors la première, en fait ça va se diviser en trois, c'est vraiment ouais. un tiers. Ouais, voilà, donc là on voit la fille qui a fait bac L et histoire de là. Donc du coup en gros ça va être un tiers les collaborations.
Ouais.
Donc il y a des marques qui m'appellent, des agences qui me disent voilà ça c'est notre client, on aimerait que tu fasses une vidéo, une photo, c'est quoi ton tarif ?
Ok.
Je donne mon tarif, etc.
Bon. D'accord.
Ensuite ça va être les événements que ouais. j'organise tous les 2 mois à Tours.
Oui, c'est vrai, ouais. je voulais l'aborder, mais vas-y.
Voilà, ouais. toute nouveauté aussi de l'année dernière, l'idée que j'ai eue en avril dernier et qui fonctionne très bien. Et ensuite, ça va être tous les projets annexes qui vont être déclenchés par Instagram, mais qui n'y sont pas forcément liés, comme par exemple le livre.
Ok, d'accord. Donc, 3 sources de rémunération. Mmh. Et sur Instagram, tu nous disais tout à l'heure que tes journées étaient bien remplies. Tu postes des photos, des vidéos, tu fais tout toute seule ?
Alors oui, je fais tout toute seule, mais dans mes décisions de 2023, j'avais mis en gros, toute top list, j'avais mis m'entourer.
D'accord.
Parce que là, ça commence à devenir difficile.
Ouais.
Je commence en fait à passer beaucoup de temps à répondre aux mails, à passer du temps au téléphone, à passer du temps dans des rendez-vous. Et au final, en fait, le côté création de contenu que j'aime le plus, et bien en fait, perd du terrain.
Ouais.
Parce que je passe mon temps à faire autre chose et tout, et c'est souvent des choses bien, mais la création de contenu commence à passer à la trappe, mais
ouais.
c'est ça qui me fait vibrer en fait. Donc
ouais, je comprends.
Voilà, du coup, je m'étais dit, là en ce moment, je cherche une stagiaire.
D'accord, bon, bah, on passe le message si vous voulez, stagiaire d'Emmy.
J'ai mis dans ma story à la une une offre de stage pour expliquer les thèmes.
D'accord.
Et c'est vrai que moi, j'ai adoré avoir des stagiaires l'an dernier à Lillette. Je trouve ça génial. Enfin, on s'entendait hyper bien, j'adorais leur apprendre des choses.
Ouais.
Enfin, j'ai vraiment la volonté de partager. Donc je savais que ça allait me manquer, ça, le côté avoir une petite équipe et tout. Voilà. Puis je suis aussi en train de me renseigner pour voir si je ne peux pas être accompagnée d'une agence ou d'un agent.
D'accord.
En prenant soin de trouver quelqu'un de très sérieux. Parce que comme
ouais.
dans tout, il y a tout qui se fait, il y a des gens moins sérieux. Oui,
un peu comme partout. L'agence, si tu peux juste rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que fait l'agent avec un influenceur ? Il y en a beaucoup qui en ont.
Alors oui, il y en a beaucoup qui en ont, mais souvent, c'est pas mis en avant. Donc, on va pas... Des fois, on sait pas que tel influenceur qu'on
oui.
suit... Ah, il a un agent, on savait pas, parce qu'il en parle pas forcément. C'est un peu les backstage aussi, et ça le regarde. Et c'est vrai que l'agent, en fait, il définit avec l'influenceur ce qu'il a envie de faire. Il y a des gens qui vont dire, voilà, moi, je veux que mon compte, il tourne tout seul... Voilà, c'est une source de revenus, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, etc. Donc l'agent va s'occuper un peu de tout.
Ouais.
Et puis, la plupart du temps, On définit les choses que l'on veut faire en priorité. Donc voilà, si par exemple, moi je dis la création de contenu, c'est ce qui me manque le plus, je veux me dégager du temps pour ça, et ben l'agent va peut-être plutôt prendre le relais sur les mails, répondre, négocier aussi les tarifs, et puis pourquoi pas démarcher, parce que moi par exemple, je démarche jamais, sauf si vraiment j'ai un truc hyper précis en tête et j'envoie un message pour prendre la température.
Oui, là c'est différent, sur un projet.
Mais j'envoie pas des masses de mails en mode bonjour, venez travailler avec moi, parce qu'en fait je suis déjà tellement sollicitée que si je fais ça, je vais me noyer, mais du coup lui peut le faire de façon plus ciblée, avec du coup une voix qui compte peut-être un petit peu plus, plus sérieux, enfin voilà.
Puis te faire gagner du temps sur des demandes que tu pourrais recevoir qui seraient pas forcément, parce que j'imagine que tu dois recevoir de tout
faire
et
le
rien
tri.
Faire le tri sur les choses que tu reçois, parce que t'as une ligne éditoriale, en tout cas des sujets de prédilection, et tu vas pas demain, j'imagine, poster des trucs qui n'ont rien à voir avec ta ligne édito. Ok, tu nous parlais tout à l'heure de différents projets et des différentes sources de rémunération. Donc, il y a évidemment ce bouquin, je voulais revenir dessus. Aujourd'hui, tu as un projet de livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur d'abord comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée et tu t'es dit « Ok, bon, bah, maintenant, je vais essayer de me renseigner sur comment on fait ?» Ou à l'inverse, est-ce qu'on est venu te chercher en disant « On t'a suivi sur Insta et on aimerait bien t'écrire un bouquin ?»
Eh bien, deuxième option.
Okay.
Parce que du coup, comme je disais, je ne démarche jamais. Et des fois, c'est pas que j'ai pas... Enfin, j'ai 10 idées et tout, mais c'est plus par manque de temps aussi. J'ai toujours aimé écrire, donc c'est quelque chose auquel j'aurais pu penser et essayer de trouver une maison et tout. Mais non, du coup, on m'a écrit vraiment en mai. Au début, j'ai lu le mail et je me suis dit, mais c'est vrai, ça. Enfin, j'ai été vérifier le site de la maison d'édition, le site des collections, et j'ai eu la personne au téléphone. Et oui, c'était bien un vrai projet. Et du coup, j'ai dit oui.
D'accord.
Mais au début, j'ai un peu hésité parce que je voyais la masse de travail et tout. Je me suis dit, oulala, ça va être compliqué.
Comment t'as présenté le projet, la maison d'édition, elle t'a contacté et qu'est-ce qu'elle t'a dit, sans rentrer dans le détail, mais c'était quoi le projet, en fait?
Alors, le projet, c'est du coup un
guide.
Si
tu peux nous en dire plus, d'ailleurs, je sais pas.
Oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Okay. Je peux en parler. Donc ils m'ont dit, voilà, nous on a des guides de la collection 111 lieux.
D'accord.
Et donc c'est 111 lieux dans chaque région. Okay. Donc ils ont déjà fait l'Allemagne, je crois, les Pays-Bas, etc. Et maintenant c'est au tour de la France d'avoir une couverture région par les guides 111 lieux.
D'accord.
Et donc là ils cherchaient un auteur pour la région Touraine.
Okay.
Et ils sont tombés sur mon compte Insta. Enfin, ils me l'ont dit sans me le dire que c'était grâce à Instagram qu'ils m'ont trouvé. Et comme ils voyaient que c'était déjà un petit peu ce que je faisais, en fait, explorer ma région, des lieux un peu insolites et tout. Bon, ils m'ont dit, voilà, nous, c'est ça le propos. Des lieux insolites, originaux, hors des sentiers battus et pas trop touristiques. Donc, vous ne mettez surtout pas Chambord et Chenonceau, qui sont des sites sublimes.
Parce que ça, on connaît,
mais
finalement.
Ouais. Voilà, c'est ça que tout le monde connaît. Vous essayez de nous trouver des petites adresses et tout. Et c'est là que j'ai compris la masse de travail. Parce que du coup, 111 lieux, c'est 111 chapitres. Voilà.
Oui, on comprend. Déjà, rien qu'avec le 111 lieux, on se dit, ah oui, quand même.
Oui, c'est plus un format livre qu'un guide, en fait. Parce que guide, on s'imagine le petit guide qu'on met dans la poche, City Guide et tout. Pas du tout. C'est vraiment un livre. Le chapitre, en fait, c'est chaque chapitre a sa double page.
D'accord.
Une grande photo à gauche et à droite, un grand texte pour expliquer.
Ouais, ok. Et donc, tu as dit oui. Est-ce que tu as mis longtemps à dire oui, à réfléchir, à accepter ?
Ben, j'ai hésité et comme à l'époque, je travaillais encore au château, je me suis dit compliqué.
Oui,
mais comme l'idée de la démission se faisait dans ma tête, je me suis dit finalement, je savais que la rédaction commencerait en novembre.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que la saison à Lillette allait être terminée, parce qu'elle se terminait en septembre.
Okay.
J'avais octobre pour réfléchir à tout ça et puis voilà.
Et puis tu t'es lancée. Mmh. Bon, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Moi, je suis curieuse sur ce projet justement. Tu fais toute seule, comment ça se passe ? Est-ce que c'est un peu cadré ? Les 111 lieux, tu vas aller voir à quel moment ? Est-ce que c'est un peu au fil de l'eau ? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je suis sûre que ça va en intéresser plus d'un.
Ah oui, alors l'organisation, c'est quelque chose. Donc déjà au début, ils m'ont proposé de faire et le texte et les photos.
D'accord.
Sachant que je n'avais pas le matériel pour faire les photos.
Ouais.
Donc j'ai dit non.
Okay.
Et ils m'ont dit, ok, donc vous trouvez un photographe. J'ai un ami qui est photographe. Je lui ai proposé, il m'a dit « Waouh, la masse de travail !» Parce que autant, moi, des fois, je peux passer des coups de fil dans des lieux que je connais déjà pour refaire le point avec la personne, autant lui, les 111, il va y aller en physique, c'est sûr.
C'est ça, pas le choix.
Voilà, donc après, on s'est lancé, il était partant, donc on s'organise parfois pour aller dans les lieux ensemble.
Okay.
Comme ça, on y va, je fais la visite, lui, il fait les photos. Mais ce qui est très, très long, c'est de contacter chaque lieu, d'organiser un passage, d'expliquer le projet à chaque fois. Enfin, bon.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et donc, du coup, par contre, tous les textes, c'est moi, c'est 100%
D'accord.
moi. Et
okay.
justement, c'est le côté que j'aime, ça sera vraiment mon livre.
Oui, quoi. C'est toi qui l'auras écrit. Ok, donc tu vas aller dans les 111 lieux. Les 111 lieux, c'est toi qui les choisis, ils sont choisis en amont.
Alors, j'ai envoyé des listes en amont avec la maison d'édition. On a fait beaucoup d'allers-retours comme ça pour voir si on avait bien les mêmes idées, si on ouais. était bien dans le même chemin et tout pour ça. Et donc, après quelques ajustements, j'ai fait une liste. On m'a dit « Ok, go ». Et du coup, tous les deux mois, j'ai des rendus. Donc là,
D'accord.
j'avais un premier rendu le 1er décembre de 25 chapitres avec les 25 photos.
Ok.
Et ensuite, le prochain, normalement, c'était le 1er février. Mais
ah, c'est aujourd'hui,
c'est demain, après-demain. Mais comme on est au mois de février, les sites sont fermés.
Ah,
le
ouais.
temps est médiocre. Il pleut. Il n'y a pas une fleur dans les jardins.
Ah,
donc, on a appelé la maison d'édition. On leur a dit, écoutez, là... je leur ai montré des exemples de lieux qui étaient vraiment pas beaux en ce moment.
Pas à leur avantage à cette période de l'année, ouais.
C'est ça, même carrément fermé.
Ouais.
Donc là, on a eu un petit délai pour essayer de s'organiser, mais je pense que tout va se décanter en avril, parce que la Touraine, c'est une région qui vit d'avril à septembre.
Ouais, Oui. Beau jour. Ok. Bon, ça doit être chouette parce que j'imagine que c'est des lieux, certains, tu nous disais que tu connais, mais d'autres pas. Donc, tu pars à la découverte d'endroits un peu cachés.
Oui, c'est ça. Top. Et c'est génial parce que c'est souvent des visites privées.
Mais ouais.
Et la dernière fois, par exemple, j'ai été au domaine de Candé, à Mont. Et on a fait la visite sans personne parce que le site était fermé. Enfin, c'était pas la saison. Et on a eu une visite, mais géniale. Et c'était trop bien. Enfin, vraiment, c'est des moments privilégiés. En plus, moi, ça me fait beaucoup de rencontres. À chaque fois, je rencontre les gens qui gèrent les lieux et tout. Enfin, vraiment, c'est très, très chouette.
Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux en parler de ça? Parce que comme c'est un projet qui va sortir concrètement, d'ailleurs, est-ce que tu as la date de sortie?
Alors non, je rédige jusqu'à juillet 2023.
D'accord.
Ensuite, ça part en correction, impression, il y a du boulot.
Ouais.
Et ça sortira seulement... en 2024, mais pas de date précise.
Pas de date précise, donc 2024. Mais d'ici là, est-ce que tu peux parler un peu, parce que tu as un compte Insta sur lequel tu partages quand même ton quotidien, au-delà de partager tes sorties et voilà, des choses ponctuelles, au fil de l'eau, tu partages ton quotidien. Est-ce que tu as le droit là de montrer un peu ou pas du tout?
Alors, j'avais gardé le projet secret jusqu'à novembre, parce que novembre, c'était le début de la rédaction.
D'accord.
Et du coup, j'ai annoncé en novembre que j'allais écrire un guide, etc. Et là, maintenant, je partage ponctuellement les lieux que je visite, mais pas tout, parce que garder
Sinon,
la surprise.
C'est dommage. Ouais. Ok. Et donc, ce bouquin va sortir donc physiquement. J'imagine qu'on pourra le trouver un peu partout, dans tous les lieux qu'on connaît, physique, librairie et puis sur Internet. Concrètement, qu'est-ce que Amy ressent de tout ça? Parce que c'est passer d'un compte Instagram qui fonctionne très bien, mais à un livre qui, là, pour le coup, tu le disais, est palpable, avec, j'imagine, ton nom dessus. Qu'est-ce que tu ressens là, à l'instant T? Alors que, bon, pour l'instant, il n'est pas sorti, mais en tout cas, tu sais que ça va sortir un jour.
Mais je suis hyper excitée, hyper contente. Et en vrai, j'ai tendance à être hyper optimiste et à toujours accueillir la nouveauté avec plaisir. Et j'adore, en fait, dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il se passe quelque chose de nouveau et tout. Donc, en fait, j'ai vraiment accueilli ce projet dans mon quotidien.
Ouais.
Et maintenant, ça en fait partie.
Bah,
let's
pour le
go.
Coup, oui, d'autant plus. Parce que franchement, c'est tout le temps, en fait, que tu es dans ce projet-là.
C'est ça. Mais j'étais quand même contente le jour où j'ai fait des recherches sur la maison d'édition.
Ouais.
J'ai tapé 111 lieux sur Google. Et j'ai vu tout en haut, dans la catégorie achat, j'ai vu que c'était vendu à la Fnac, à Cultura.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ok, c'est concret là, c'est un
c'est
vrai
dingue.
Truc quoi.
Ouais, c'est un chouette projet en tout cas, donc je te souhaite le meilleur. Je voudrais revenir justement sur tous ces sujets, culture, histoire de l'art, pour te poser la question. Et tu nous disais que toute petite tu voulais être conservatrice de musée. Comment ça t'est venu? Est-ce que tu baignais déjà dans un milieu, peut-être avec des parents qui sont dans ces domaines là ou comment tu penses que c'est venu ce goût là pour l'histoire de l'art, pour la culture, etc.?
Mes parents sont des grands voyageurs. Ils ont toujours voyagé, même hyper jeune. Je crois ma mère avait 18 ans dès qu'ils ont fait leur premier voyage. Mais c'était à base de Népal pendant je ne sais pas combien de temps.
Oui,
sans
c'était
téléphone,
pas des petits voyages, c'était pas à côté. Quoi.
Non, mais c'est ça. Aller en moto à l'autre bout du monde, en Jordanie et tout. Enfin, voilà, c'était un peu des malades. Mais justement, trop bien. On a des albums à la maison. C'est des pépites avec toutes les photos.
Et tu as voyagé avec eux, du coup, toi?
Alors, du coup, ils ont mis au début un peu de temps à m'avoir parce qu'ils aimaient tellement voyager que,
d'accord,
bon, allez, l'enfant, on l'aura plus tard. Quoi. Et du coup, au début, début, ils allaient voyager et j'étais chez mes grands-parents, ouais, avec qui je m'entends très 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 bien. Du coup, j'étais chez eux et au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, on a bien envie de l'emmener quand même. Et donc, ils m'ont emmenée pour la première fois, je crois que c'était au Canada, mon D'accord. premier voyage. Et après, ils m'ont emmenée tout le temps. Et on partait, ouais, je crois, quasiment à chaque vacances, on partait loin. Et surtout, on visitait beaucoup. Mes parents ont un rythme de visite qui est intenable. Enfin, genre vraiment, c'est, on se lève le matin à 9h. Et encore, je suis sympa. 9h, on est déjà partis, je pense.
D'accord.
Et c'est plus... Par exemple, je suis allée en Grèce en octobre. Et mon père m'a envoyé l'itinéraire de leur premier voyage en Grèce à eux.
D'accord.
Et ils m'ont dit, voilà, tu pourrais faire ça. Et j'ai regardé et tout. Donc déjà, c'était hyper carré, hyper organisé, machin, bon, fait. Et je voyais surtout mes 4-5 villes par jour. Je disais, ah ouais, d'accord. Et puis nous, en fait, quand on y est allé, ben, on faisait un ou deux trucs par jour, mais on se laissait couler un peu aussi. C'était aussi les vacances. Et je me disais, mais le rythme... Et je me rappelle, quand j'étais petite, mais des fois, j'étais épuisée de marcher sous le soleil, les sites archéologiques sous 40 degrés en Grèce en août et tout. Ah ben, je déconne, hein, franchement. Mais du coup, et les monastères, surtout à l'autre bout des montagnes, avec 3000 marches à monter et tout, je me suis beaucoup plaint. Oui. Mais au final, c'était génial de voyager avec mes parents. Et puis, je pense que ça a créé en moi... Enfin, j'aimais ça quand même, quoi.
Bah c'était... ouais, clairement, je pense qu'effectivement... Enfin, je dis ça, ça ne me concerne pas. Mais je pense qu'effectivement, ça a permis de t'ouvrir un peu au monde, à tout ce qui se passe. Et c'est pas anodin, je pense, que tu sois sur des sujets comme ça. C'est bah, ça. Il doit être hyper fier que tu sois en train d'écrire un bouquin. Alors, même si c'est pas le Népal, hein, c'est la ouais. Touraine. Mais en tout cas, que tu partes à la rencontre de plein de gens et que tu visites plein de lieux. Enfin, ça doit être une fierté aussi.
Pour ouais, ils sont contents. Ils sont contents, mais c'est vrai que voilà, moi c'est vrai que c'est plus régional ou la France, etc. Alors que eux, ils partaient à l'autre bout du monde et tout, mais en même temps, c'était plus pas le même monde. Nous, non, on a eu le Covid, c'est et c'est vrai que moi, j'ai été assez frileuse à voyager ces dernières années parce que comme je suis très stressée pour un voyage, pour un vol, l'idée d'avoir des grèves qui me l'annulent, d'avoir un virus qui annule, enfin, ça m'a un peu stressée. Du coup, je suis pas beaucoup partie. Et du coup, il y a pas longtemps, ça, j'en ai pas parlé d'ailleurs sur Insta. Mes parents, pour mon anniversaire, m'ont offert mon voyage de rêve en fait, qui est un voyage au Japon.
D'accord.
Et au début, mon père, il m'a dit, bah, let's go, tu pars quand et tout, le mois prochain. Je fais, non, mais papa, bah, maintenant tu peux, c'est toi qui fais ton emploi du temps et tout. Je fais, ouais, mais bon. Et du coup, on a décidé qu'on partirait en 2024.
D'accord.
Et, mes parents, au début, ils étaient là, mais dans si longtemps, mais vous pourriez faire ça dans pas longtemps et tout. Mais il y a ce truc.
Ouais, ouais, je comprends.
Bah, alors déjà, c'est un voyage tellement important que j'ai envie de le mariner dans ma tête et d'en profiter
ouais,
déjà
ça,
avant.
C'est bien.
Mais c'est vrai que je suis plus habituée maintenant à aller pas trop loin. Enfin, quand j'étais en Erasmus, je voyageais beaucoup plus.
Ouais.
Et ce truc de Covid m'a un peu rendue frileuse
D'accord.
avec ça.
Okay. Bah, je pense que ça tombe aussi à pic parce que les gens aiment bien de plus en... Alors, ça a toujours été, mais je trouve de plus en plus le local et participer à la vie un peu de leur région, de leur ville, etc.
C'est
donc,
ça.
C'est chouette aussi de... Parce que effectivement, alors moi, je suis pas une grande, grande voyageuse, à vrai dire. J'ai visité quelques pays, mais c'est tout. Mais en fait, le truc, c'est que on a aussi plein de choses qui sont très jolies en France, en Touraine et dans plein de régions françaises, donc c'est chouette aussi de mettre ça en avant.
Mais c'est ça que je veux vraiment montrer et qui m'anime, c'est redécouvrir sa région, redécouvrir ce qu'il y a près de chez soi. Et souvent les gens me disent, ah, grâce à toi on voit qu'il y a des choses qui se passent à Tours et on sait qu'il y a des choses qui se passent en Touraine et qu'il y a plein de choses à faire.
Mais tu avais fait un calendrier
De l'Avent. Ouais.
Attends, je suis un peu quand même. Calendrier de l'Avent, tu avais mis en avant, justement, des commerçants de Touraine. Enfin, dis-moi rapidement.
Oui, c'est ça. C'était un calendrier de l'Avent qui mettait en avant des commerçants, des créateurs tourangeaux, des lieux, des chambres d'hôtes dans la région. Enfin, voilà, le but, en fait, c'était de faire un calendrier de l'Avent pour mettre en avant la Touraine.
Ouais, qu'ils fassent pas. Ben, je trouve ça bien en fait de mettre ta notoriété tourangelle et tes voilà communiquer à tes abonnés qui te suivent. Et je pense que t'as une communauté engagée.
Oui.
Arrête-moi si je me trompe, mais engagée dans le sens ils commentent, ils participent, ils partagent. Enfin, voilà.
Ils y vont aussi.
Donc c'est ça qui est bien parce que tu mets tout ça au service. À l'époque, et je sais, c'était en quelle année? C'était pendant le Covid.
J'avais
ou pas,
fait la première édition, je pense en 2020.
Ouais, donc on était quand même dans cette période un peu tourmentée pour les commerçants.
Et donc
c'était
justement,
bien.
Ouais, je me rappelle, j'avais été interviewée par France 3, j'avais eu un reportage, je crois que c'était même passé le soir au National et
D'accord.
tout. Et donc oui, c'était voilà, remettre en avant le local à un moment où c'était vraiment le sujet, quoi, redécouvrir ce qu'il y a près de chez soi quand on ne peut plus aller nulle part autre, en fait, ailleurs.
Bah, c'est chouette de ne pas juste être influenceuse ou créatrice de contenu en faisant sa petite popote de son côté, mais essayer aussi de mettre en avant. Et tu le fais, tu nous en as parlé un petit peu aussi, via des événements. Est-ce que tu peux me détailler un peu ce projet, comment c'est né, Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que moi, demain, je peux m'inscrire? Dis-moi.
Oui, alors j'ai eu l'idée des événements en avril dernier. C'est venu, en fait, un peu naturellement, pareil. Enfin, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça. J'ai lancé ça sans savoir qu'un an après, ça allait devenir un de mes leviers de rémunération.
Oui.
J'ai dit, voilà, en story, bon ben, ça serait quand même chouette, non, qu'on se retrouve en vrai, parce qu'à chaque fois, en fait, les gens m'envoient des messages et me disent, oh, est-ce qu'on peut aller boire un café ensemble et tout? Sauf qu'un café fois 50 personnes,
c'est ça.
Ben, je vais avoir du mal à voir tout le monde. Et du coup, c'est ça, en fait, qui m'a fait me dire, et si on se retrouvait tous au même endroit? Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai pris la température en story, les gens m'ont dit carrément. J'ai dit, ok, je vais essayer de trouver un lieu. Donc, j'ai trouvé un lieu, je me suis dit, avec des ateliers, ça serait peut-être plus sympa.
Ouais.
Donc, j'ai appelé des gens, des créateurs avec qui je travaille. Je leur ai dit, vous voulez pas venir animer un atelier? Ah, oui, on vient, on vient. Une date était calée, les gens sont venus, les participants étaient au rendez-vous. Et du coup, maintenant, je le fais tous les deux mois. Donc,
d'accord.
Le but, c'est de rencontrer ma communauté. Donc,
d'accord.
Les événements s'appellent On se rencontre.
Okay.
Ma communauté peut un peu discuter avec moi et tout, mais le mieux, c'est qu'ils viennent profiter des ateliers, qu'ils en profitent pour découvrir des choses. Et un lieu également.
Okay.
Découvrir un lieu à Tours. Ouais. Découvrir des boutiques ou des gens voilà, qui vont animer les ateliers. C'est un vrai moment d'échange, de partage, de rencontre.
Okay.
Et c'est toujours un moment aussi très positif. Enfin, moi, je sais que ça me fait des très bonnes ondes pendant plusieurs jours.
Ouais.
C'est vraiment trop, trop bien. Et tout le monde peut s'inscrire. En fait, je sors la billetterie à peu près un mois à l'avance.
D'accord.
Donc, en fait, il faut payer l'entrée, payer son billet. Et après, on profite de tout sur place. Mais on ne repaye pas les ateliers sur place.
Ouais, okay.
Une fois qu'on a notre billet d'entrée, on profite
de tout.
On
fait ce qu'on veut à l'intérieur.
Voilà.
Okay.
Ça dure 3 heures à peu près.
D'accord, ok. C'est le week-end, la semaine, comment?
Alors, ça dépend.
Okay.
J'ai fait un jeudi soir, un vendredi soir, un samedi.
Ouais, en fait.
J'essaye de varier parce que forcément, dès que je fais un jeudi soir, les gens me disent « Mais non, mais moi, je suis pas là. »
Oui, mais tout le monde
le samedi.
Sera
voilà, c'est ça. Facile. Donc, je change un peu.
Ok, et ça peut être, sans rentrer dans le détail, j'avais vu, ça peut être des ateliers créatifs, quel type d'animation il s'y passe?
Ça peut être un peu tout. Ouais. Il y avait eu, pendant les premiers événements, des ateliers fleurs séchées. Il y avait eu aussi des ateliers naturopathie, des
d'accord.
ateliers confiance en soi, coaching.
Ouais,
on avait même la dernière fois fait tester de l'électrosimulation là, pour faire du sport.
Ah oui, trop
donc,
bien.
Donc voilà, en fait, j'essaie aussi de faire pas que des trucs fifi.
Oui.
Voilà, j'essaie de varier. Il y a même une jeune femme qui fait de la gestion de patrimoine, donc là,
d'accord.
qui parle voilà, de placement, etc. Mais justement, je trouve ça bien parce qu'on peut aussi s'ouvrir à des sujets qu'on connaît pas.
Ouais.
Et comme moi, j'adore me confronter à des nouvelles choses, à des nouveaux sujets et apprendre tous les jours, et ben j'encourage les gens qui viennent à le faire aussi.
Ouais, c'est chouette. Et du coup, ta communauté, c'est plutôt des filles. Est-ce que tu sais définir
J'ai 70% de filles, 30% d'hommes.
Ah, quand même.
Et bien oui, pour une blogueuse / influenceuse
quand
fille,
même.
C'est rare d'avoir autant d'hommes.
Ouais.
Mais comme je parle de gastronomie, de patrimoine, ben, ça touche tout le monde.
Bien sûr.
Mais par contre, les hommes sont très silencieux sur mon compte. Ils
regardent.
Ouais.
D'accord.
Ils vont assez peu intervenir.
Oui.
Ils vont pas venir aux événements. Parce que des fois, on m'a demandé, mais c'est ouvert qu'aux filles? Non, pas du tout. Mais comme il y a cette dimension bien-être, je pense que les hommes ne s'autorisent pas
se sentent
ce genre de moment.
S'autorisent pas, ouais, c'est le mot, je pense.
Ouais, ouais. Voilà. Et surtout, ben, ils ont peur d'être un peu la tâche au milieu, alors que franchement, ça serait chouette. Mais
pas du tout, ouais.
Après, voilà, moi, je vais pas non plus les faire venir à tout prix. Enfin, ils
sont déjà
partout, donc on n'a pas non plus...
Ok. J'aimerais savoir un peu comment toi, tu vois l'avenir, à la fois via Instagram, parce que c'est vrai que tout repose, entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce que tu as un bouquin, tu as plein d'autres projets, mais il y a beaucoup de ton activité qui repose sur Instagram, qui finalement n'est pas du tout lié à toi. Demain, Instagram ferme, bon voilà, je le souhaite à personne, évidemment, ni à moi avec mon agence, mais je veux dire, tu es quand même lié à ce réseau social. Donc, comment tu vois l'avenir, à la fois par rapport à ce que je viens d'évoquer, l'évolution d'Instagram, peut-être que demain, il y aura un nouvel algorithme qui va tout pourrir pour tout le monde, et à la fois toi, quelles sont tes envies aujourd'hui?
Ben là, je me laisse surtout porter. Encore une fois, je suis très optimiste, donc je me dis que même si ça doit changer, je trouverai autre chose.
Ça fait bien cet état d'esprit.
Ben, j'ai fait mes études, j'ai même déjà travaillé, j'ai eu mon CDI. Maintenant, je me lance dans tout autre chose. J'ai plein de signes au quotidien qui me font comprendre que c'était la bonne décision.
Ouais.
Je ne suis pas du tout inquiète. Mon entourage et les gens s'inquiètent pour
moi,
mais moi, je ne suis pas inquiète.
Bon, bah, c'est déjà ça. Écoute, alors, il ne faut pas qu'ils te refilent leur inquiétude, par contre.
Non, mais ça, franchement, ça glisse. Quoi. Enfin, c'est vrai qu'après, je fais des articles en ce moment sur ça, sur mon blog, sur les questions que je reçois tout le temps.
Ouais.
Et les questions, même des fois, un peu... Enfin, c'est souvent qu'on me dit, mais du coup, t'as envie Enfin, c'est vrai, quoi. Enfin, tu sais, je vois dans les yeux des gens, pour eux, c'est pas concret. Mais comme moi, je passe ma semaine, mes week-ends à travailler là-dessus, pour moi, c'est concret.
Mais on se rend pas compte, hein. Enfin, je veux dire, tout le monde, je pense, alors les générations d'aujourd'hui, beaucoup moins, mais on se rend pas compte. Oui, un compte Insta, bon, bah, elle publie des photos, des vidéos, et voilà, quoi. Le reste du temps, qu'est-ce qu'elle fait chez elle, en fait ?
Oui, oui, mais j'ai du mal avec... Enfin, en fait, je suis tellement dedans que du coup, j'ai pas le temps de prendre justement autant de pincettes à tout expliquer. Donc, je le fais pas, je fais mon truc. Et puis,
ouais, non, mais t'as raison. Puis c'est bien de voir. Je pense que donc, tu fais partie de ces gens qui voient le verre à moitié plein.
Oui.
Et ça, c'est top.
De voir tout le temps plein.
Ouais, enfin, bah, ça, c'est génial parce qu'effectivement, t'as raison. Je pense que. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire pour les gens qui ont tendance à stresser parce qu'on maîtrise pas forcément toutes ces émotions. Mais de se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, ça se passe bien. Je suis heureuse dans ce que je fais. Demain, il se passe un truc qui fait que, eh ben, tant pis, on trouvera des solutions, on rebondira.
Mais oui, on trouve
quoi.
Toujours quelque chose. Enfin, l'humain, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour trouver des solutions, pour s'adapter. Alors, bien sûr, dans des dimensions où là, on n'est pas au fond d'une grotte en train de faire un
oui,
feu.
Oui, c'est sûr.
Mais je pense qu'on a quand même ça dans notre ADN, quoi, de se renouveler et voilà, faut y aller, quoi.
C'est sûr, ok. Est-ce que tu as des envies ou des rêves qui ne seraient pas encore réalisés ? Alors, tu as déjà un bouquin là, qui est en écriture, ça c'est top, mais sans forcément nous les dévoiler. Mais est-ce que tu as voilà, des choses ou un but, un objectif, un rêve, je ne sais pas ?
Ben, encore
si
une fois,
tu nous le dis,
pas
c'est mieux.
Vraiment. Bah, c'est déjà trop bien tout ce qui se passe.
Ouais.
Et donc, à terme, c'est vrai que là, peut-être en ce moment, la réflexion, c'est au niveau de mon appartement, parce que forcément avant c'était plus mon dortoir qu'un appartement, enfin je faisais que y dormir, mon frigo était tout le temps vide parce que j'avais pas le temps de faire les courses, et là je commence à vivre dedans vraiment.
Oui.
J'ai mon bureau maintenant dedans. Donc je suis en train de me dire c'était un meublé, donc il est pas très personnalisé, faudrait que j'achète des meubles, enfin, et donc je me dis en fait ouais, le rêve ce serait une superbe maison où j'ai mon bureau, vraiment une pièce dédiée à tout ce que je fais, où je peux mettre un côté où je filme, enfin. En fait, voilà, un espace aménagé pour mon activité. C'est quelque chose que j'ai pas pour l'instant. Et puis, mais enfin, voilà, franchement, après...
Le reste, on verra.
Il se passe déjà tellement de trucs ouf que bah, j'attends de voir ce qui va se passer.
Ok, bon, ça donne... j'allais dire, ça donne envie, mais derrière, on comprend bien qu'il y a tout un travail. C'est pas juste un compte Insta, et ça, c'est bien. C'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de tous ces sujets. Chaque fin d'épisode, j'ai trois questions que je pose toujours à mes invités. Donc, tu ne vas pas y échapper. Amy, est-ce que tu pourrais nous parler d'une déconvenue, de quelque chose que tu avais prévu comme ça, mais qui ne s'est pas vraiment passé comme ça ? Et justement, en grande optimiste que tu es, bah, t'en as tiré du positif.
Eh bien, j'ai toujours voulu aller à l'école du Louvre.
D'accord.
Parce que c'était quand même le Graal pour les études d'histoire de l'art. Et j'étais persuadée que j'avais les compétences et que j'allais être super là-bas. Et je n'ai jamais même eu un seul entretien, un seul retour de candidature, absolument rien. Pourtant, j'ai postulé plusieurs fois.
Oui.
Limite, j'ai orienté mes études, mes options pour ça.
D'accord.
Et j'ai jamais eu de retour.
Okay.
Enfin, vraiment, mon dossier à l'école du Louvre a toujours été considéré comme rien, quoi. Genre vraiment.
Néant, rien.
Voilà, c'est ça. En même temps, il y a tellement de gens qui postulent et tout, c'était pas une attaque personnelle,
oui,
bien sûr.
Mais
c'est vrai que j'étais toujours déçue. Et du coup, ben, finalement, ça m'a pas empêchée de trouver un stage à la Villa Médicis. Ça m'a pas empêchée de trouver un stage dans une fondation à Paris aussi, qui normalement prenait que des étudiants du Louvre.
Oui.
Enfin, voilà, en fait. J'étais un peu déçue, un peu piquée quand même de ne pas pouvoir accéder à ces cours qui avaient l'air géniaux dans un musée exceptionnel. Mais bon, finalement,
finalement c'est bien tombé peut-être.
Ok.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la personne qui t'inspire le plus, que tu connais ou que tu ne connais pas forcément ?
Alors, je n'ai pas du tout d'inspiration très précise. Enfin, quand j'étais petite, j'ai été fan de chanteuses, de trucs comme ça, mais ça m'est vite passé. Par contre, je vais beaucoup regarder les parcours de youtubeuses, genre Gaëlle Garcia, des filles qui, justement, font leur marque de cosmétiques. Elles ont leur propre marque. Elles ont des super maisons qu'elles achètent, qu'elles rénovent, où il y a justement ce fameux grand bureau. Elles ont des équipes, des bureaux avec des équipes qui sont là pour les aider. Enfin, c'est plus des parcours inspirants de grands créateurs de contenu, de grands influenceurs et qui font des choses chouettes. Vu que je suis très YouTube, c'est plus ces parcours-là qui m'inspirent.
Ouais, mais ça tombe bien par rapport au podcast. C'est tes rôles modèles à toi, des femmes qui ont réussi dans ce que toi fais et qui t'inspirent finalement de par leur réussite et ce que tu aimerais faire toi. Ok. Et enfin, quel est ton mantra ou ta citation préférée ?
Eh bien, c'est plus une citation en ce moment, c'est en anglais « love the process ». Donc en français, qu'est-ce que ça voudrait dire ? apprécie le processus.
Ouais, comment le traduire, oui.
Ouais, oui. En gros, c'est j'ai toujours tendance à être dans l'après. Donc, okay. Ça veut dire que à peine j'ai un événement qui est passé, je suis déjà en train de passer, de penser et d'organiser le prochain. Là, dans ma semaine, en fait, j'ai l'impression de jamais profiter du moment présent, alors qu'il se passe déjà des choses très chouettes dans ce moment-là, et je suis toujours dans l'après. Et du coup, toujours en train de me dépêcher, toujours en train de courir après des buts. Et j'ai envie d'être plus ancrée dans le moment et de profiter déjà de tout ce qui se passe en ce moment. Il se passe plein de choses, c'est génial. Et d'arrêter de penser à « oui, le livre, c'est bien, mais ça sera mieux quand il sera sorti. Ah, les événements, c'est bien, mais ça sera mieux quand on sera le 17 mars et que ce sera le jour de l'événement.
» Enfin, voilà. Donc, c'est bien de se projeter, mais comme tu l'as dit, oui, il faut aussi savoir s'ancrer, profiter du moment présent.
Et du coup, aimer le processus, love the process.
Bien, je prends. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet épisode qui, j'espère, plaira aux auditeurs et auditrices. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver trouver Amy, même si on l'a dit un petit peu, et je mettrai tous les liens que tu vas nous donner, ou, enfin les sites, etc., ton blog notamment, parce que tu as un blog aussi, on a parlé beaucoup d'Instagram, mais tu as un blog, donc je les mettrai dans les notes de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu si on veut te rencontrer ou te suivre tout simplement ?
Et bien du coup, sur Instagram, c'est là où je passe le plus de temps, donc sous le pseudo Amy Zaparsa. On peut me contacter par message privé là-bas, ou si c'est pour une demande un peu plus pro, etc., plutôt par mail.
D'accord.
Le mail est sur mon compte Insta. Je suis aussi sur LinkedIn.
D'accord.
Alors là, cette fois-ci, c'est pas sous Amy Zaparsa, c'est sous Amy Alexandre,
qui est ton vrai nom.
Voilà. Et c'est vrai que c'est les deux réseaux où je suis le plus active.
Ok. Et si on veut te rencontrer, du coup, on te suit sur Insta, comme ça, on sait quand est-ce que tu organises
les
fameux événements.
Oui.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Amy, de ton temps et de ce partage, et je te dis à très bientôt.
Merci, c'était très chouette. Merci. À bientôt.
Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre comme elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @commeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.